bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans le cadre de mon émission « Bienvenue chez le roi », je vous propose une saga romantique dont je suis l'auteur. Dans les Lumières de l'amour, je vous entraîne à la cour de Louis XV avec le prince russe Victor Casbec et la duchesse Marie-Angélique de la Doucelle. Dans le château de Marie-Angélique, on prépare le mariage de Guillaume de la Danière et de Sophie Kourakine. Et l'effervescence est à son comble. La couturière, Madame Leroy, avait passé un bon mois aux Ormeaux, car en plus du trousseau de Sophie Kourakine et de sa robe de mariée, elle avait fait coudre par ses petites mains deux tenues pour les enfants, et les essayages avaient été épiques. Magdeleine avait une idée très précise de la robe qu'elle voulait porter, en tout cas sur sa couleur. Et comme sa mère avait eu l'imprudence de lui demander de choisir, elle avait jeté son dévolu sur la couleur lilas. Et rien n'avait pu la faire changer d'avis. Il faut dire que la petite fille savait très bien ce qu'elle voulait et la couturière s'était inclinée en ajoutant à la jupe lilas une robe en toile de Mayenne écrue, imprimée de fleurs et d'oiseaux mauves. L'effet en était ravissant. On était allé quérir le tissu tout près du Mans, dans la bonne ville de Laval. Dès le XIIe siècle, ce secteur du textile y était florissant et au XVIe, c'était le comte Guy de Laval qui avait conféré la production, la vente et l'exportation de la toile de Mayenne aux Lavallois. Pour Louis, sa mère avait choisi un costume de mousquetaire du roi et le petit garçon, très fier de son chapeau orné d'une plume d'autruche, passer son temps à saluer, comme le faisaient les gentilshommes à la cour de Louis XIII. L'abbé Couette était heureux de devoir marier Guillaume de la Danière qu'il connaissait depuis l'enfance. Il célébrerait ce nouveau mariage catholique, orthodoxe, de bon cœur. Après tout, ces Russes étaient de bons chrétiens et il se réjouissait fort que sa belle église d'Amenée en Champagne soit à nouveau fréquentée par tous les aristocrates invités à la noce, et d'ores et déjà, il écrivait fébrilement des brouillons d'homélie dans la solitude vespérale de son petit presbytère. Thank you. Aux ormeaux, l'agitation était à son comble. Et pour y échapper, Victor avait imaginé aller chasser le sanglier avec quelques amis. Le fermier s'était plaint d'avoir ses champs ravagés par une harde de sangliers la semaine précédente. Et il avait organisé la traque avec ses deux fils. Grégory Tatitchev et Youri Davidov s'étaient joints à eux. Guillaume, un peu las des préparatifs, lui aussi, les avait rejoints. Marie-Angélique attendait Bertrand de Ruillé et Anne Augier de Maintenon, mais ce fut un cavalier solitaire qu'elle vit dans l'allée. Elle reconnut sans peine Gaston de Lavardin et se leva d'un bond pour l'accueillir sur le perron. « Vous voilà donc, je me demandais si je vous reverrai un jour. C'est un reproche ? Vous aurais-je manqué, ma chère ?» Elle remarqua le ton un peu sarcastique de sa voix et faillit lui répondre que oui, il lui avait manqué. « Vous nous avez manqué à tous. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à mon mariage ? Vous voulez vraiment que je vous le dise ou le savez-vous déjà ?» Il la regardait, penchée du haut de sa selle, de son regard brûlant. Et ce fut elle qui baissa les yeux la première, en se mettant à rire aux éclats comme à chaque fois qu'elle voulait masquer ses sentiments. Le jeune vicomte ne fut pas dupe un seul instant. « Ne vous faites pas trop d'illusions, je suis revenue de Toscane pour assister aux noces de mon vieil ami Guillaume. En fait, je suis là aussi pour régler certaines affaires avant de rejoindre mes parents. » Prise de court, elle se contenta de bredouiller. « Vous repartez donc ? Que ferais-je là ? Personne ne m'attend. D'ailleurs, peut-être vous souvenez-vous de la conversation que nous avons eue ici même, vous et moi, après notre... Comment dire, notre après-midi aussi brûlante que pluvieuse au fond de vos bois, j'avais eu l'impression de vous avoir soulevé terre par mon ardeur. Mais il me semble pourtant que nous avions décidé que notre romance, à peine esquissée, à mon grand regret, s'arrêtait là. » Elle répliqua, vexée. « En tout cas, ce que j'avais oublié, c'est votre manque de nuance, et encore, c'est un doux euphémisme. Désirez-vous, ma chère, que nous restions là nous quereller sur le pas de votre porte ou pouvons-nous aller un peu plus loin pour confronter calmement nos points de vue ? D'ailleurs, où est votre époux ? Une partie de chasse avec nos amis. Fort bien. Alors dans ce cas, donnez-moi votre main. » Lui saisissant fermement la main qu'elle lui tendait, il la jucha devant lui, sur son cheval, et elle se retrouva dans ses bras tandis qu'il prenait l'allée cavalière au galop. « Non mais vous êtes complètement fou, qu'est-ce qui vous prend ?» « Je n'avais pas envie que nos retrouvailles se fassent sous le regard de vos domestiques, Marie-Angélique. Allez, quittez cet air courroucé, qui ne vous va pas du tout. Je suis en train de vous enlever, vous savez » plaisante-t-il encore. Le bel alezan irlandais avait repris une allure plus calme, et la jeune femme s'amusa de la situation cocasse dans laquelle elle se trouvait. Elle se demanda un instant, en riant intérieurement, quelle tête ferait Victor s'il la voyait ainsi juchée en Amazone, collée contre le beau vicomte. Troublée, elle ne se demandait pas s'il avait envie de l'embrasser, mais seulement à quel moment il oserait le faire. Il osa. Et ce fut aussi merveilleux que la première fois. Elle retrouvait d'un seul coup toutes les émotions que ses baisers brûlants lui avaient données. Et c'était assez incroyable comme sensation. Elle en frissonnait tout bonnement. En équilibre instable sur ce maudit cheval, elle s'accrochait à son cou et se laissait faire, étourdie par toute la fougue du jeune homme. Décidément, elle aurait vécu avec lui une histoire d'amour bien étrange. Rassurée qu'elle était de ne tromper son beau prince qu'avec d'innocents baisers, si l'on pouvait les qualifier ainsi. Thank you. Après une longue promenade à deux sur l'alezan du vicomte de Lavardin, les jeunes gens regagnèrent le château. Marie-Angélique, lovée dans les bras de Gaston où elle se sentait si bien, se redressa toutefois avant de reprendre l'allée cavalière qui arrivait juste devant la demeure. Odon sortit des écuries pour prendre les rênes du cheval. Gaston sauta aussitôt de sa monture, prit Marie-Angélique dans ses bras pour la poser délicatement sur le sol, flatta l'encolure d'Ardan et la suivit dans la maison. Imperturbable, feignant d'ignorer que la jeune femme était bouleversée, décoiffée et rouge de confusion, il continuait à parler, poursuivant une conversation imaginaire, un soliloque plutôt. « Décidément, je me plais beaucoup en Toscane. Mes parents ont eu la main heureuse en faisant l'acquisition de Fonte Rutoli. Cela me plaît de pouvoir les aider à exploiter ce magnifique domaine. Je me passionne pour les vignes et faire du vin m'enchante. » Alésia vint leur servir le thé dans le salon bleu. Elle posa le quatre quarts sur la table volante et s'éclipsa discrètement. Ils étaient assis devant la cheminée où flambaient quelques bûches en prévision de la fraîcheur de la soirée, et le silence se fit entre eux. Puis, brusquement, Gaston lui asséna. « Je dois vous dire une chose importante, et je veux que vous soyez la première à le savoir. À la fin de cette année, je vais épouser une jeune fille de Toscane. » Cette fois, elle pâlit sous le choc, avant de se reprendre et de dire calmement « Voilà une nouvelle à laquelle j'étais loin de m'attendre. Comment s'appelle-t-elle »« Virginia. C'est un très joli prénom. »« Un prénom d'origine romaine, ajouta-t-il. Virginia est très belle. »« Et très amoureuse de vous, j'imagine. Ne pensez-vous pas que vous auriez pu m'en avertir avant notre promenade ?»« Allons, ma chère, oseriez-vous dire que vous ne l'avez pas aimée, cette promenade ? Savoir que j'allais convoler en juste noces vous aurait-il troublé ? Nous sommes de trop vieux amis pour nous mentir. Ainsi, je vous rappelle que vous vous êtes mariée avant moi. Par ailleurs, poursuivit-il, je reconnais bien volontiers qu'il n'a jamais été question d'union entre nous. Mais je vous accorde que j'ai toujours aimé vous avoir dans ma vie. Cela vous intéresse-t-il de savoir si moi, j'aime vous avoir dans la mienne ? Inutile de le dire, Marie-Angélique, je le sais. Vous n'êtes qu'un fat. Je crois que vous êtes bien trop imbu de votre personne pour pouvoir éprouver des sentiments. » Avant même qu'il eût pu répondre, les chasseurs arrivaient dans un grand bruit de bottes de cuir. La jeune femme se leva d'un bond et se suspendit au cou de son époux, quelque peu étonné par tant de fougue, et l'embrassa. « Ainsi donc, voici Monsieur de Lavardin. Les deux hommes se serrèrent la main tandis que Marie-Angélique faisait les présentations et que Guillaume serrait son vieil ami dans ses bras. « Youri, Grégory, asseyez-vous tous et goûtez cet exquis gâteau. Pierre se surpasse chaque jour davantage. » « Il fait tout cela pour flatter votre gourmandise, ma chère, commenta Victor. »« Bien sûr, je le sais, mais qu'importe, cela me plaît. » Olga, Olympia et Sophie les rejoignirent un peu plus tard, après que les gentilshommes furent montés dans leur chambre afin de se changer pour le dîner. Marie-Angélique monta chez elle également, après avoir abandonné Gaston et Guillaume devant la cheminée. Elle ne doutait point qu'ils se parlassent déjà mariage. Elle réclama Louisette et décida que ce soir, elle serait resplendissante, enjouée et heureuse, définitivement heureuse. Ce soir, aux Ormeaux, on se serait cru à la cour. Marie-Angélique et ses amies étaient très élégantes. Des robes en corolle, des décolletés gracieux, des tissus chatoyants, une débauche de dentelles immaculées et des souliers de satin à petits talons. Les hommes, en habits d'étoffe précieuse, s'inclinaient devant elles, charmés de les voir aussi belles et aussi désirables. La princesse Casbec se réjouissait fort de cette soirée, où elle accueillait tout ce qu'elle aimait. Guillaume de la Danière et sa fiancée Sophie Kourakine, Olga Troubetskoy et Olympia Bariatinsky, les princesses russes, Youri Davidov, Grégory Tatitchev, Bertrand de Ruillé et Anne Augier de Maintenon qui étaient enfin arrivés, et Gaston de Lavardin, à qui l'on avait demandé de rester pour le souper et qui détonnait un peu en habit de chasse, bien que Louisette lui eût procuré fort obligeamment une chemise de soie blanche à la Vallière. Comme d'habitude, le jeune vicomte était très entouré, et la robe rouge feu d'Olga tourbillonnait autour de lui. « Vous aviez raison, Guillaume, votre ami est vraiment charmant, susurra-t-elle. » Olympia, en soie verjade, acquiesça sans retenue aucune, le rouge aux joues. « Pour une fois, je suis entièrement de votre avis, minauda-t-elle. » Zazorovie, à votre bonne santé, crièrent-ils tous en chœur lorsque Charles eut rempli toutes les coupes de champagne auxquelles on ajouta un peu de vodka pour les jeunes Russes. Grégory, sans façon, se mit au clavecin et joua quelques airs. Toutes les fenêtres étaient ouvertes sur le parc. La soirée était douce. Et pour peu que le jeune Tatitchev veuille bien se remettre à jouer après le souper, l'on danserait sous les rayons de la lune. Le souper fut servi par des valets dans le salon vert. Les princes Casbec se faisaient face au milieu de la table éclairée par les chandeliers d'argent à cinq branches et le lustre de cristal à pampilles. Les bouquets bas, de roses et d'hortensias, posés au centre, embaumés. Chacun choisit sa place à sa guise, sans protocole aucun. Guillaume ne s'était point séparé de Sophie et ils se retrouvèrent face à face avec Anne et Bertrand. Gaston s'était assis à la gauche de Marie-Angélique et Olga s'était glissée près de lui. Olympia et Olga étaient l'une à la droite, l'autre à la gauche de Victor, tandis que Grégory et Yuri s'installaient l'un près d'Anne et l'autre de Sophie. Tous se réjouissaient à l'idée de la fête du mariage de leurs amis et toute la conversation concerna la cérémonie. On évoqua les couronnes qu'avaient apportées les Obolinski. Paul les fit rire. « Savez-vous que l'on a failli nous voler nos couronnes ?» À Londres, nous étions descendus dans un hôtel près de Buckingham Palace. Et tandis que nous voguions sur la Tamise, quelqu'un pénétra dans notre chambre et en ressortit avec un grand sac. Il attira, fort heureusement, l'attention d'une soubrette qui prévint discrètement le portier dans le hall. Deux gardiens à la carrure impressionnante firent barrage lorsque l'individu voulut sortir en prenant un air innocent. Voyant qu'il allait être pris, il lâcha le sac et détala sans demander son reste. Après coup, j'en fis des cauchemars, dit Xenia. Je m'imaginais rentrer à Saint-Pétersbourg et avouer à notre pope que nous avions perdu ses précieuses couronnes. Avez-vous choisi vos témoins? Pour moi, ce sera Bertrand, mon vieil ami d'enfance, dit Guillaume. Et moi, comme je ne peux choisir entre mes deux princesses, j'aimerais qu'Olga et Olympia, si elles le veulent, soient toutes les deux mes témoins. Croyez-vous que votre curé comprendra? L'abbé Couette acceptera, j'en suis certaine, assura Marie-Angélique. Je suis très émue, car je n'ai rien oublié de notre mariage tellement romantique. Victor lui sourit, et se levant, il lui baisa le bout des doigts qu'elle lui tendait à travers la table. Que de souvenirs délicieux, n'est-ce pas, mamie? Dussé-je vivre 100 ans, répondit-elle. Je n'oublierai jamais le beau jour de nos noces, et je vous aimerai toujours, mon bon prince. Thank you. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour la suite de ma saga, Les Lumières de l'amour, sur les ondes de Radio Grand Ciel.